Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Christelle Yessot.
Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce nouveau journal. En prélude à la présidentielle, l'ONG Balater souhaite rassembler les Ivoiriens autour de la mère patrie. Dans le même sens, les militants RHDP d'ICIA réaffirment leur engagement pour une élection pacifique. On en parle en début d'édition. Et la foire de l'emploi a démarré hier à Abidjan. Plus de 40 000 opportunités professionnelles attendent les jeunes, diplômés ou non. Hors de chez nous, au Soudan du Sud, de nouveaux combats éclatent à Nazir entre l'armée et une milice locale. Et en invité de la rédaction pour terminer, Kwaku Krah, vice-président en charge des questions électorales au FPI, interviendra sur la question des litiges fonciers observés ces dernières semaines dans le pays et ce sera en toute fin d'édition. Rassembler les Ivoiriens, toutes couches sociales et toutes tendances sont confondues autour de la mère patrie. C'est ce que vise l'ONG Balater qui, à cet effet, vient de lancer une initiative dénommée la Côte d'Ivoire en un. Là-dessus, écoutons son président, Frédéric Conan.
La Côte d'Ivoire, c'est le rassemblement ou la rencontre de l'ensemble des organisations de la société civile, des partis politiques et de toutes les composantes de notre société. L'objectif, c'est de permettre à ce que toutes ces structures, dans leur diversité, réalisent que nous n'avons qu'un seul pays et qu'en deçà de nos divergences, nous devons privilégier l'intérêt commun qui est la Côte d'Ivoire tout entière. Nous avons d'autres activités qui consistent à sillonner l'ensemble du territoire par une caravane Balater qui va parler aux Ivoiriens dans toutes leurs composantes, dans toutes les contrées, pour amener chacun à réaliser que nous avons un seul pays et que ce seul pays, nous devons le préserver. Et indépendamment de ça, Balater, c'est aussi un organe de médiation, de discussion et autres et tout. Nous pensions que la communication est un des aspects les plus importants pour obtenir un certain nombre de choses et qu'on peut se parler en dépit de nos divergences, essayer d'aller ensemble à des accords sans forcément sortir des gants et d'aller à des rencontres avec des adversaires pour échanger sans toutefois demander à des jeunes ou à des populations de descendre dans la rue pour aller à des affrontements et autres et tout ça. Donc je pense que Balater est là pour mener toutes ces missions-là.
À l'instant, Frédéric Conan, président de l'ONG Balater. Et allant dans le même sens, les militants RHDP d'ICIA ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une élection présidentielle pacifique dans le Haut-Sassandra. Cette déclaration a été faite le week-end dernier lors de la rentrée politique du bureau départemental du parti, au cours de laquelle les responsables ont également annoncé leur intention d'intensifier les efforts pour attirer de nouveaux membres avant les élections. L'événement s'est déroulé en présence des ministres Cissé Ibrahim Bakongo, Amadou Koulibaly et Belmondo Dogo, compte rendu Jean-Noël Kwame.
Le coordonnateur principal du RHDP dans le Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré, a réaffirmé son engagement et celle des populations à tout mettre en œuvre pour une élection présidentielle apaisée dans la région.
ICIA fait partie des zones les plus difficiles au monde politique. Les acteurs politiques sont souvent de mauvaise foi. C'est le refus massif des populations au discours de haine, d'exclusion, de violence qui impose la paix et des élections apaisées. Le Haut-Sassandra a pris le pari du développement dans la paix et dans la cohésion sociale. Nous prenons l'engagement de faire en sorte que le Haut-Sassandra ne connaîtra aucune violence en 2025.
Plusieurs nouveaux militants ont fait leur adhésion au cours de cette rentrée politique. Suit Guillaume, cadre du parti à Vavois, premier vice-président du conseil régional, et Fanny Karim, maire de la commune d'Issia, se disent satisfaits.
Aux élections régionales passées, le fait qu'il n'y ait pas eu de violence a été la conséquence du réalisme de nos parents. Ils voient que pour le développement qui est palpable dans la région, il leur faut la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement.
Le président de la République demande de décloisonner ethniquement, politiquement le RHDP et faire entre ceux qui ne sont pas RHDP. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est garant de la sécurité nationale et donc du calme qui va prévaloir à ces élections. Le RHDP fera en sorte de ne pas être dans la bagarre. Ce qui fait que tout ce que nous disons aux populations est empreinte de cohésion, d'élections apaisées.
Environ 3000 nouveaux militants et adhérents au parti ont été présentés au cours de cette rentrée politique du bureau départemental du RHDP. Jean-Noël Kwame, de retour d'ICIA, Radio de la Paix.
et vie des institutions. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a discuté hier du projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur le droit unique de sortie sur l'exportation d'anacardes. À la fin de la réunion, le représentant du gouvernement a souligné l'importance pour la Côte d'Ivoire d'avoir cette loi qui a été adoptée par la Commission. Écoutons le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly.
Il s'agit d'un texte qui vient apporter simplement des clarifications sur en fait la position tarifaire qui doit faire l'objet véritablement de taxation. Comme vous savez, quand on parle d'anacarde, il y a deux produits essentiels de la filière qui sont exportés. Il y a les noix brutes de cajou et il y a les amandes. Jusqu'ici, il y avait une forme d'interprétation qui faisait que les droits uniques de sortie étaient appliqués à la fois sur les noix brutes de cajou et sur les amendes. Or, les amendes sont totalement exonérées de DUS, de droit unique de sortie. Donc, le projet de loi qu'on vient de présenter vient clarifier cela pour dire à tout le monde qu'effectivement, dans la politique d'encouragement de l'État en matière de transformation de cajou, les amendes, qui sont des produits issus de la transformation, sont exonérées pour permettre justement d'encourager une plus grande transformation des noix brutes donc en produits finis exportables.
Vous écoutiez Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget. 42 844 opportunités attendent les jeunes en quête d'insertion professionnelle à la première édition de la Foire de l'emploi et du recrutement. Un rendez-vous désormais trimestriel dont le premier acte se tient du 3 au 7 mars au Palais de la Culture de Trècheville. Le lancement a eu lieu hier, les détails avec Nelly Dali.
L'enjeu pour le gouvernement était de mettre sur le même espace les recruteurs des entreprises, des cabinets, les établissements en charge des financements de projets et les jeunes demandeurs. Un objectif réussi selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré.
Je pense que nous l'avons réussi. Quand je vois l'engouement des jeunes, vous savez qu'il y a un besoin réel. L'idée vraiment, c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse.
Une opportunité pour ces jeunes venus massivement à ce rendez-vous de l'emploi, du financement et de la formation.
Abdel Bodje, étudiante en fin de formation de caissière spécialisée. Je suis sûre que j'ai les qualités nécessaires pour une bonne entente dans une entreprise. Mes soeurs, mes frères, je les dirais de venir. On ne sait jamais, il faut tenter sa chance et on espère toujours.
Lobo Kwame Salomon Goba, auditeur en droit des contentieux. À chaque fois qu'il y a ce genre d'opportunité, nous devons nous rendre afin de nous-mêmes nous imprégner de ces choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir voir de mes propres yeux et je vois que c'est effectif. Il n'y a rien à payer, c'est totalement gratuit. Et je pense que ces programmes sont mis en place pour nous les jeunes et nous les jeunes, nous devons venir massivement pour tenter nos chances.
Durant 5 jours, recruteurs, formateurs et structures de financement seront à la disposition des jeunes en quête d'insertion professionnelle.
Et la 26e édition de la Semaine nationale de sécurité routière a été officiellement lancée hier dans le village d'Aoué, situé dans la sous-préfecture de Brofodoumé. Cette initiative intervient après de nombreux accidents survenus dans la région où les responsables souhaitent désormais mettre l'accent sur la sensibilisation des populations. Cette édition est placée sous le thème « Le bon état mécanique du véhicule, facteur d'une mobilité sûre ». On en parle avec Junior Cardin.
Le choix porté sur Aoué pour le lancement de cette campagne trouve son explication dans des accidents déjà enregistrés dans la sous-préfecture de Brofodoumé, au dire du sous-préfet Dosso Mohamed Lamine.
Vous vous souvenez encore sans doute du 1er août 2022 où il y a eu un tragique accident qui a fait plus de 20 morts dans notre localité. Et que depuis 2022, les actions du gouvernement ont fait en sorte que nous n'ayons plus à déplorer ce nombre de morts. C'est vrai, il peut y avoir des accidents partout, mais la situation de Brofodoumé était devenue très très alarmante.
Au nom des 11 villages de la sous-préfecture, le chef d'Aoué, Dr Yate Pakom, a émis quelques souhaits pour une mobilité plus sûre.
Nous avons souhaité bénéficier aussi de cette sécurité routière, notamment par la sensibilisation des usagers de la route, et aussi penser à protéger nos populations en érigeant des dodanes sur la voie principale à l'entrée et à la sortie de chaque village de la sous-préfecture.
Mais les messages sur l'entretien mécanique de véhicules distillés lors de cette rencontre dans la grande salle de réunion de la chefferie d'Aoué, qui a fait le plein de ces 400 places sont destinées à toute la Côte d'Ivoire. Étienne Kouakou, directeur de l'Office de sécurité routière, OZER.
Donc à partir des Brofodoumé, nous lançons cet appel que chaque automobiliste ait le réflexe du contrôle quotidien de son véhicule, mais aussi du contrôle périodique à travers donc la visite technique obligatoire. Et qu'il suive l'état de son véhicule au quotidien. Ça peut permettre d'éviter des accidents et d'éviter d'être tué sur nos routes.
Relativement aux doléances des chefs, le directeur de l'OZER a promis de saisir les autorités compétentes afin d'ériger des dodanes réglementaires avec surtout des signalisations.
Et du côté de Boaké, depuis quelques jours, la ville fait face à une pénurie de viande de bœuf sur les marchés, une situation saisonnière due à la sécheresse selon les bouchers et qui impacte les ménages, restaurants et autres revendeurs. Le constat avec Sindou Ouattara, notre correspondant dans le Gontougo.
Depuis plusieurs jours maintenant, acheter de la viande de bœuf à Bandoukou est un véritable parcours de combattant. Au grand marché, devant les quelques étals de viande, on se bouscule.
Les camarades s'alimentent depuis la comme bien la personne. C'est en carême. Allez, elle ne voit pas clair.
Ça va travailler cher. Ça fait que j'ai une heure du temps que je suis au marché pour chercher viande. Il y a manque de viande. Ça nous arrange. On dit tout au marché.
Selon Bouraïma, l'un des responsables de la boucherie, ce fait n'est pas nouveau et est simplement dû à la sécheresse.
Manque de bœuf là, tellement. Chaque année, c'est comme ça, bon coup. Pendant la sécheresse là, on ne gagne pas bœuf. Faites jusqu'à 25 bœufs. Mais aujourd'hui, c'est 12 bœufs en Haïti. Hier là, c'était 6 bœufs.
Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les ménages, les tenanciers de restaurants et autres revendeurs.
Sarabo, nous sommes des revendeurs aussi. Nous, on prend pour aller briser pour vendre. Mais pour avoir là, vraiment, c'est pas facile. Moi, hier même, je n'ai pas travaillé à cause des problèmes de viande.
Assez loup pour Béatrice. Il fait un restaurant. Bon, déjà là, c'est manque de viande, de bœufs. Non, on ne gagne pas. Ça ne nous arrange pas. S'il n'y a pas de viande, nous, on ne peut pas vendre.
Madame Ogo, il faut avoir la viande pour manger. Quand ça va en cas, ça tarde. Le prix va monter.
Si pour le moment, aucune augmentation n'a été annoncée, au dire de Bouraïma, la persistance de la situation risque de changer la donne.
Actuellement, il n'y a pas de bœuf. C'est un pays qui s'échappe. On sera obligé d'augmenter.
Le vœu des populations en ces moments, et surtout en cette période de mois de Ramadan, est que cette situation de manque de viande de bœuf sur le marché prenne fin le plus rapidement possible. Sindou Ouattara, Bandoukou, Radio de la Paix.
Et de retour à Abidjan, où s'est tenu le lancement de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Cette année, l'événement aura lieu du 6 au 10 mai au Parc des Expositions d'Abidjan sous le thème « Livre Racine ». La cérémonie officielle a eu lieu le mardi 25 février dernier à Cocody, en présence de nombreux acteurs de la chaîne du livre, le compte-rendu de Didier Blé.
Le SILA est bien plus qu'un simple salon, il est un carrefour de culture et d'idées, un espace d'échange entre auteurs, éditeurs, lecteurs et passionnés de littérature. Ange Félix Ndapri, commissaire général du salon.
Les objectifs majeurs de cette 15e édition, renforcer le leadership de la Côte d'Ivoire comme hub de la littérature africaine, restaurer et réhabiliter le livre africain et ses littératures.
Le SILA 2025, comme les salons précédents, connaîtra des invités spéciaux et plusieurs temps forts en juin d'avril.
La ministre Christiane Taubira, Alain Mabankou, Emle Boum, Jimmy Jean-Louis. Nous comptons également rendre un bel hommage aux publishers. Il s'agit des éditrices. La commémoration des principaux classiques de la littérature du continent africain.
Cette édition 2025 a pour thème Livre Racine. Marguerite Aboué, auteur de la célèbre bande dessinée Aya de Yopougon et l'écrivaine à l'honneur. Le Cavali sera la région hôte de cette édition. Les territoires francophones des Caraïbes et d'Outre-mer seront également à l'honneur. Quelques célébrations sont annoncées.
La célébration des 20 ans de Aya de Yopougon, 20 ans des coups de la vie de Anzata, les 20 ans d'existence de Valais Édition, les Eburni en musique avec les éditions Eburni, le choix Goncourt Côte d'Ivoire avec l'ambassade de France, une soirée de distinction des légendes de la littérature ivoirienne et africaine.
Notons que des journées spécifiques marqueront ceci là, parmi lesquelles celle des écoles le mercredi, de la République le jeudi, le vendredi journée des Caraïbes et du Cavali, et le samedi la journée des familles.
Hors de nos frontières, des combats ont éclaté hier dans la ville de Nazir, au nord-est du Soudan du Sud. L'armée sud-soudanaise a affronté des combattants de la White Army, une milice communautaire liée au vice-président Riek Machar. Cela se produit malgré les efforts de ce dernier pour apaiser les tensions durant le week-end. Et en France, cette triste nouvelle, Jean-Louis Depré, proche de l'ancien président Jacques Chirac et ancien président de l'Assemblée l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, est décédé à l'âge de 80 ans, a indiqué sa famille. Le fils de Michel Debré, ancien Premier ministre de Charles de Gaulle, a notamment été juge d'instruction, ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997 dans le gouvernement d'Alain Juppé et fut pendant 20 ans député de l'Eure avant de diriger l'Assemblée après la réélection de Jacques Chirac en 2002. Et nous passons tout de suite à l'invité de la rédaction. Ce jour, nous recevons Kwaku Kra, vice-président en charge des questions électorales au FPI. Le parti s'est récemment insurgé contre ce qu'il qualifie de dysfonctionnement au niveau du foncier en Côte d'Ivoire. Interrogé sur la question, Kwaku Kra répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, honorable Kwaku Kra.
Bonjour, Soro Adams.
Votre parti, le FPI, dénonce des dysfonctionnements concernant le foncier en Côte d'Ivoire. Certains vont jusqu'à parler d'un scandale du foncier dans votre pays.
Oui, je crois que ceux qui parlent de scandale ont pleinement raison et le Front populaire ivoirien les soutient dans la mesure où il y a trop de plaintes, il y a trop de malversations et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça dure et ça ne fait que s'amplifier. Au point où même des juridictions compétentes sont intervenues dans cette affaire, mais malgré tout cela, les choses évoluent dans le mauvais sens. Dans ce milieu, nos compatriotes investissent à perte et n'arrivent pas à entrer en possession de leur lot.
Mais comment expliquez-vous ce scandale?
C'est la faiblesse de l'administration et de la justice ivoirienne. L'administration ivoirienne qui recrute les premiers acteurs qui gèrent cette question foncière, s'ils sont de bonne moralité, ça va nous épargner beaucoup de choses. Maintenant, si la justice auprès de laquelle les requérants vont arrive à régler correctement leurs problèmes et à sanctionner, ça allait vraiment régler le problème définitivement.
Alors, honorable Kwaku Kra, le FPI, votre parti, en appel à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi faire exactement?
Il y a deux enquêtes en la matière. Quand il y a des malversations, il y a des scandales à ce niveau-là, d'envergure, il y a deux enquêtes. Il y a les enquêtes administratives et judiciaires diligentées par le gouvernement et il y a les enquêtes parlementaires. Mais on note que du côté du gouvernement et de la justice, les choses sont limitées. Et quand les choses sont limitées, il appartient maintenant aux représentants des populations qui sont les parlementaires de se saisir de ce dossier et donc mener une enquête et pouvoir identifier les forces et les faiblesses et de proposer des solutions idoines. Et je crois que les députés qui ont le mandat qui court encore, le Sénat, qui a son mandat qui court encore, peut se saisir du dossier. Et selon ses prérogatives, pas en concurrence avec le gouvernement, prendre le dossier et dans une enquête parlementaire responsable, déterminer les faiblesses, les forces et faire des propositions.
Vous y croyez? Vous croyez sincèrement que le Parlement pourra faire quelque chose?
Si nous voyons le rôle régalien du Parlement, je dis oui. Mais si nous voyons un peu comment ils sont choisis, on peut dire qu'ils peuvent être influencés. Mais on ne va pas jusqu'à ne pas leur faire confiance. Il faut faire confiance au Parlement. Et après, on jugera.
Et en conclusion?
Oui, en conclusion, je pense que la solution la plus urgente et la plus efficace, c'est l'enquête parlementaire que le FPI propose. Et nous souhaitons que cette enquête parlementaire se mette en place le plus rapidement possible pour qu'on puisse identifier, en tout cas, des solutions afin de sauver ceux qui en souffrent.
Je vous remercie, honorable Kwaku Kra.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction avec Kwaku Kra, vice-président en charge des questions électorales au Front populaire ivoirien FPI, qui se prononçait sur les récents conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Il était interrogé par Soro Adams. Et c'est donc ici que nous mettons un terme à ce journal, le rappel des principaux titres. En prélude à la présidentielle, l'ONG Balater souhaite rassembler les Ivoiriens autour de la mère patrie. Dans le même sens, les militants RHDP d'ICIA réaffirment leur engagement pour une élection pacifique. Et la foire de l'emploi démarrée hier à Abidjan. Plus de 40 000 opportunités professionnelles attendent les jeunes, diplômés ou non. Et hors de chez nous, au Soudan du Sud, de nouveaux combats éclatent à Nazir entre l'armée et une milice locale. Merci à vous de nous avoir suivis. À présent, retrouvez la revue de presse avec Aoussi Potin.
Bonjour à tous. Depuis hier, le palais de la culture de Trècheville a